En ce 7 octobre, c'est la mémoire de Notre-Dame du Rosaire, disons la fête de Notre-Dame du Rosaire, une fête assez récente dans l'histoire de l'Église, une fête qui est quand même extrêmement importante quand on pense à l'importance qu'a pris la récitation du rosaire, ou si on préfère, la récitation du chapelet, à travers l'Église catholique. Au point même, comme le mentionne René Laurentin dans un livre « Marie, Mère du Seigneur », en page 175, il rapporte que le rosaire est une Bible des pauvres, il est si biblique et si évangélique que le pasteur Neville Ward d'Angleterre l'a lancé dans sa paroisse méthodiste peu avant 1970 avec tant de succès qu'il a écrit sur le rosaire un livre qui est traduit aujourd'hui en plusieurs langues. C'est assez étonnant de penser que le rosaire s'exporte finalement au sein de l'Église méthodiste, qui est une église sœur de l'Église catholique, dans le sens qu'ils ont des évêques et que nous avons de bons rapports avec eux de plus en plus. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Chacun sait que les papes, au cours, disons, des 150 dernières années, nous ont profondément encouragés à réciter le chapelet, mais on peut remonter beaucoup plus loin. Dans la formule actuelle du rosaire, c'est une prière, je l'explique pour certaines personnes qui l'ignoreraient, qui rassemble 15 dizaines d'Ave Maria ou de Je vous salue Marie. Donc 150 Je vous salue Marie, que l'on récite non pas simplement comme des perroquets en principe. Malheureusement, ça peut être le cas dans certaines paroisses, dans certains endroits. Parfois, on écoute ça et on se dit ça n'a pas de sens. Mais je reviendrai sur cette question. Quand les catholiques, les chrétiens, même maintenant, récitent cette forme de prière répétitive, ça rythme une méditation profonde, une méditation de cinq mystères joyeux, de cinq mystères douloureux et de cinq mystères glorieux. Qu'est-ce que j'entends par des mystères avec des qualificatifs comme joyeux, douloureux et glorieux? Ce sont des événements qui sont arrivés dans l'histoire du christianisme et qui débutent avec l'annonciation que Dieu fait à la Vierge Marie par la bouche de l'archange Gabriel pour lui annoncer qu'elle sera mère du Sauveur. Et ensuite, il y a la visitation où Marie, enceinte, visite sa cousine Élisabeth, qui est elle-même enceinte. Et l'enfant que porte sa cousine tressaille. Il est déjà vivant, hein? Un enfant est vivant dans le sein de sa mère. Et il tressaille de joie à cause de la visite de son cousin Jésus. Et ce sera Jean-Baptiste plus tard. Le troisième mystère joyeux, c'est Noël, la nativité de Dieu en la personne de Jésus, Fils éternel du Père. Par l'opération, par, disons, le mariage de l'Esprit Saint avec Marie. J'ai lu l'autre jour un très beau texte sur l'épousaille de Marie et de l'Esprit-Saint. C'était très, très beau, très mystique, très respectueux. Et enfin, il y a aussi la présentation de Jésus au Temple, comme tout enfant juif qui est présenté au Temple, à Dieu, et le recouvrement de Jésus au Temple à 12 ans quand il le retrouve après l'avoir égaré sur la route. Les cinq mystères douloureux sont l'agonie de Jésus, sa flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix sur la Via Dolorosa à Jérusalem et sa crucifixion. Et évidemment sa mort. Et les cinq mystères glorieux, bien c'est évidemment la résurrection de Jésus dans le tombeau, au jour de Pâques, l'ascension où il monte au ciel devant ses apôtres. On voit ça au début du livre des Actes des apôtres dans le Nouveau Testament. Et la Pentecôte aussi, c'est-à-dire ce jour où l'Esprit Saint s'empare de toute cette Église naissante pour la transformer, en prendre possession, en faire une Église pleine d'un entendement profond de tous ces mystères, justement. Et ensuite, bien, il y a l'Assomption de Marie, qui est fêtée le 15 août, où son corps est transporté au ciel, et enfin, le couronnement de Marie au ciel, qui est élevé à la dignité de reine du ciel, des anges et des saints. Vous direz que c'est beaucoup, qu'on peut se demander comment les gens peuvent méditer tout ça en récitant des Ave Maria. Ça se fait avec des distractions, on va s'en dire. Les 150 « Je vous salue Marie », ou comme on dit souvent, les 150 Ave du premier mot latin du « Je vous salue Marie », « Ave Maria », « Gratia plena », sont entrecoupés de notre Père et de « Gloire soit au Père », le Notre Père que Jésus nous a enseigné, et le « Gloire soit au Père » qui est le résumé de tout le sentiment profond du chrétien qui glorifie la Trinité. C'est une des plus belles prières qui soit. « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Et alors, c'est récité à chaque dizaine. Un « Notre Père », un « Gloire soit au Père ». Et tout ça constituait à l'origine une sorte de remplacement de l'office monastique. Dans les monastères, on récite un office, mais les frères convers, les laïcs, qui étaient souvent très peu instruits, qui ne savaient pas lire, bien, on leur faisait réciter comme ça 150 « Je vous salue Marie » à la place des 150 psaumes de la Bible que les moines instruits pouvaient lire, chanter et ce qu'on appelle psalmodier, ça vient justement du mot psaume, en le récitant de part et d'autre de l'Église, un verset d'un côté, un autre verset de l'autre. Et quand je suis entré à Saint-Benoît-du-Lac en 1944, il y a donc 52 ans, un 29 septembre, eh bien, les frères convers, qui étaient vêtus de brun plutôt que de noir, comme les moines de chœur, étaient bien à part et récitaient justement de telles prières. Ça n'a pas duré bien longtemps, il y a eu des transformations et aujourd'hui, ces frères qu'on dit convers ou frères laids ou simplement les frères, sont au cœur maintenant, répartis selon leur jour d'entrée au monastère, leur année d'entrée. Parmi les moines de cœur, ils font partie des moines comme les autres moines. Et comme ils savent tous lire, ils chantent et psalmodient avec les autres. Et tout est transformé depuis le Concile. Dans la pratique populaire, au Moyen Âge, la dévotion au rosaire était associée au couronnement de statues de la Vierge avec des tresses de roses qui symbolisaient les hommages, les offrandes que les fidèles faisaient à Marie. Ça, c'était un symbole, ces roses, ces tresses de roses. Et c'est de là que vient le mot « rosaire », le nom de « rosaire » s'est généralisé pour désigner cette forme de prière qu'on faisait en même temps qu'on décorait les statues de la Vierge, qu'on les couronnait. La fête du 7 octobre, dans le nouveau calendrier liturgique, je vous ai bien dit au début que c'était une mémoire. C'est plus une célébration complète comme ça l'était autrefois. C'est une célébration qui est née vers la fin du Moyen-Âge, dans le cadre d'une confrérie établie par les moines dominicains. qui était consacrée, cette confrérie, à la promotion par la dévotion de cette récitation du rosaire en le méditant. Et ça a connu à la Renaissance un regain inattendu. C'est comme ça qu'en 1571, le pape Saint-Pie V a créé la fête de Notre-Dame-des-Victoires. Pourquoi? C'était en mémorial de gratitude pour remercier le Dieu et Marie pour le succès décisif qui avait été remporté à Lépante contre les musulmans qui, la flotte turque, c'était les Turcs musulmans qui attaquaient cette ville de Grèce, Lépante, qui s'appelle aujourd'hui Naupactos. C'est sur le détroit de Lépante. C'est un détroit qui unit le golfe de Patras au golfe de Corinthe, disons à la hauteur d'Athènes, mais un peu vers l'ouest, vers la gauche sur une carte. C'est là qu'est Lépante. On parle souvent de la victoire de Lépante qui a eu lieu un 7 octobre de 1571, et c'est comme ça que Saint-Pie V a institué la fête de Notre-Dame-des-Victoires, qui est devenue Notre-Dame du Rosaire. Et cette victoire inespérée de la chrétienté sur cette avance de l'islam a été attribuée par la croyance populaire, donc à la récitation du rosaire, qu'avait déclenché la prise de Chypre par les Turcs, et on avait peur quand on a vu les Turcs s'emparer de l'île de Chypre. On s'est demandé s'ils prendraient pas toute la Grèce et finalement toute l'Europe. Et c'est pourquoi qu'en 1573, deux ans plus tard, eh bien Grégoire XIII, le pape, a dénommé explicitement cette célébration la fête du rosaire de Marie. Il inclut dans le calendrier liturgique officiel de Rome. Et puis en 1716, donc 150 ans plus tard, eh bien, pour marquer une nouvelle victoire remportée sur les Turcs par un prince, le prince Eugène de Savoie-Carignan. C'est de là que vient un peu notre régiment de Carignan, dans lequel était mon ancêtre quand il est arrivé au 17e siècle ici, au Québec, Jean Beaugrand-Champagne. Et alors, Clément XI a décrété que la fête serait célébrée dans tous les diocèses de l'Église catholique dans ce temps-là. C'est une fête importante et je vous expliquerai pourquoi. Mais je vous en ferai peut-être un peu l'historique pour vous montrer comment cette idée de prier, en comptant jusqu'à un certain point les prières que l'on récite, c'est d'origine extrêmement lointaine et on peut imaginer facilement que Marie devait le pratiquer, non pas réciter le chapelet évidemment, mais elle avait probablement en main une forme de chapelet, ou du moins des petites pierres pour compter ses prières, comme on le faisait, paraît-il, à l'époque, tant chez les Juifs que dans d'autres peuples. Et nous verrons ça tout à l'heure, après avoir écouté un chant à Marie par les moines de Solem. Sont multiples. vous choisirez celle que vous préférez. Je puise ça dans un texte extrêmement intéressant d'un historien sérieux, l'abbé Bricout, qui a fait vraiment des recherches très très sérieuses. L'opinion traditionnelle nous dit que Saint-Dominique, qui est mort en 1221, le fondateur des Dominicains, n'a pas seulement donné au rosaire une vie, une forme nouvelle, il l'aurait inventé, il est après Dieu, disons, dans ces textes-là, le premier auteur, c'est ce qu'on prétend. Il y a une deuxième version. On dit que le rosaire ou le psautier de Notre-Dame, qui est institué par Saint-Dominique, là, consistait en 150 Ave et 15 Pater, 15 Notre Père, avec des méditations sur la vie de notre Seigneur. Troisièmement, il y en a d'autres qui disent que Notre-Dame est apparue à Saint-Dominique, puis elle lui a confié le rosaire comme une arme spirituelle contre les albigeois, c'est-à-dire les cathares, hein, qui vivaient dans le Tarn, dans le sud de la France, et qui ont été plus ou moins exterminés, d'ailleurs, de façon assez terrible, à partir de 1209. Donc, sous, disons, la juridiction de Saint-Dominique, qui a fondé les Dominicains, justement, dans le sud de la France. Saint-Dominique, ensuite, on dit, et ses successeurs ont regardé le rosaire comme un de leurs plus précieux privilèges. Ils l'ont prêché partout, ils en ont établi les confréries. Or, les preuves que les partisans de cette opinion s'efforcent de faire valoir en faveur de Saint-Dominique, on dit qu'il aurait été averti par la Sainte Vierge de prêcher au peuple le rosaire comme un moyen particulièrement efficace là, contre les hérésies des albigeois, les cathares, puis aussi les vices qui régnaient souvent chez les chrétiens. Et c'est Alain de la Roche, qui est mort, lui, en 1475, donc, vous voyez qu'il est mort 250 ans plus tard, après Saint-Dominique, qui est le premier qui parle de cette vision dont Saint-Dominique aurait été favorisé. C'est curieux qu'on n'en ait pas parlé avant, hein? Et Alain de la Roche lui-même a reconnu, dit-il, ce fait par révélation, étant donné que les biographes de Saint-Dominique n'en parlaient pas. On voit qu'il y a là des prétentions de la part d'Alain de la Roche qui ont beaucoup de difficultés à tenir debout. Hein. On dit ici que le témoignage de cet Alain de la Roche, donc, qui est mort en 1475, comme je viens de vous le dire, auquel on a recours, bien, il prêche une méthode spéciale de prier la Sainte Vierge. On appelait ça le psautier Notre-Dame, donc les 150 Ave Maria, puis, comme je vais tout expliquer ça tout à l'heure, avec une méditation sur la vie de notre Seigneur, puis les mystères, disons, de notre foi, bien, il aurait attribué cette manière de prier à Saint-Dominique lui-même, puis il l'aurait réorganisé, tout ça pour essayer de la mettre plus en valeur. Il y a des gens, encore aujourd'hui, qui veulent faire reposer ça, cette attribution à Saint-Dominique, sur un testament d'un dénommé Antoine Serse, qui parle, lui, d'une confrérie du rosaire qui aurait été fondée quelques années avant la mort de Saint-Dominique. Mais ce testament, aujourd'hui, il est bien rejeté. On dit que c'est apocryphe, ça n'est pas authentique. Et puis, les deux autres versions que je vous avais données, là, mais c'est appuyé sur des bulles des papes, la première en faveur du rosaire est de 1478, mais c'est justement pour affirmer des choses qui ne tiennent pas tellement debout, et pour connaître que les preuves en faveur de l'opinion traditionnelle de dire que ça vient de Saint-Dominique, c'est bien faible. Les récits, d'ailleurs, de cet Alain de la Roche du 15e siècle sont bien peu consistants. Et ils ont contré le silence de plus de deux siècles, comme je vous ai dit, entre Saint-Dominique puis la date où ils apparaissent ces récits-là. Or, l'opinion récente, l'opinion du 20e siècle, fait valoir des raisons suivantes. On dit que certains éléments de la dévotion du rosaire remontent bien plus haut que le 13e siècle, finalement. Le siècle où a vécu Saint-Dominique. Le chapelet, ou la réunion de grains là, pour compter les prières, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très, très ancien, ça. Sans aller jusqu'à dire, comme je vous le disais tout à l'heure, que la Sainte Vierge a récité le rosaire durant sa vie mortelle, évidemment, c'est pas possible. Mais on peut supposer qu'elle se servait de grains pour compter ses prières, parce que des peuples avaient cet usage qui ne leur venait pas d'une inspiration chrétienne. Hein. Les anachorètes dont on vous parle assez souvent, là, au tout début de l'Église, qui se retiraient surtout dans le désert d'Égypte, mais il y en avait aussi en Palestine, c'est-à-dire dans l'Israël d'aujourd'hui, qui ont imité cette pratique en comptant leurs prières avec des petits cailloux. Et au Moyen-Âge, ben, on a eu des grains faits de diverses matières qui étaient enfilés soigneusement, mais ces objets servaient à la récitation de Notre Père. On récitait plusieurs Notre Père de suite. Et c'est de là que vient l'expression « pâtes nôtres ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, je pense que oui, hein? Des pâtes nôtres. C'est des paternosters. Saviez-vous que c'est de là que vient le nom de famille Patnaud? Patnaud, ça vient de Patnôtre, ça vient de paternoster, ça vient de Notre Père, les Patnaud. Ben oui. Et alors, ces petits chapelets étranges étaient à l'usage des frères dans les monastères dont je vous ai parlé, qui ne savaient pas lire. Alors, dans les ordres religieux, ces frères-là utilisaient ça. Ils devaient réciter ça au lieu de l'office divin, n'est-ce pas? Un certain nombre de pater, de Notre Père. L'usage de ces chapelets étranges, c'est antérieur à l'époque où s'est répandue la récitation du « Je vous salue Marie ». Des « Je vous salue Marie » qui s'enchaînent les uns aux autres. Le fameux psautier de Notre-Dame, et les ascètes d'autrefois, ont montré un grand zèle pour en réciter les 150 psaumes. Ils aimaient tellement réciter les 150 psaumes, là, les ascètes, les anachorètes. C'était entre eux, d'ailleurs, une espèce d'émulation. C'est très curieux quand on lit ça dans les anciens textes. Ça les portait, ces anachorètes, ces ascètes, à réciter le psautier plusieurs fois par jour. Imaginez, 150 psaumes, plusieurs fois par jour. Ils procédaient encore par groupe de 50 psaumes. Ils s'en sont venus à faire des réductions. Ils remplaçaient chaque psaume par un Notre Père, par un Pater. Mais ils attachaient une importance spéciale au nombre de 50, à son multiple de 150, toujours en rapport avec les 150 psaumes. Puis, à ce Notre Père, on a remplacé ça, on a remplacé le Notre Père à un certain moment par le Je vous salue Marie, mais seulement la première partie, hein, parce que la deuxième partie est assez récente. Alors, ça s'arrêtait au mot Jésus. C'est ce qu'on appelait le psautier Notre-Dame. La récitation, saviez-vous, je vous ai pas dit ça tout à l'heure, était accompagnée de génuflexions à chaque « Je vous salue Marie », imaginez, ou de prostration. On avait de drôles de coutumes dans ces temps-là. C'est très étrange. Hein? Et cette pratique est passablement antérieure à Saint-Dominique. Je vous rappelle, lui, il est mort en 1221. C'est beaucoup plus ancien. Alors, il n'y a pas question d'entremêler quand même des Notre Père à chaque dizaine, là. C'est apparu, ça, rien qu'au 14e siècle, en 1300 quelque chose. C'est attribué, d'ailleurs, à un chartreux, Henri Heger, vers 1390, à la fin du 14e siècle. Puis, 60 ans plus tard, à Alain de la Roche, lui, qui est mort en 1475. Il y a d'autres éléments importants dans la récitation du rosaire qui n'apparaissent qu'après Saint-Dominique, hein? Ainsi, cette merveilleuse méditation des mystères dont je vous ai parlé au tout début. C'est inutile d'essayer de faire remonter à l'époque de Saint-Dominique, là, en s'appuyant sur la règle, dit-on, des béguines de la ville de Gand. Gand, c'est en Belgique. Hein. Des béguines, c'est des sortes de religieuses. Il y avait une règle. On dit que cette règle-là serait de 1236, puis qu'il serait question là-dedans du chapelet. Ce document, c'est selon les historiens de l'Église les plus importants, les bollandistes, ce document, ils affirment que ça a été interpolé, ajouté. Et puis, un chartreux de Trèves, ça c'est très intéressant, et qui s'appelait Dominique, justement, Dominique, du même nom que Saint-Dominique. Donc, un chartreux de Trèves qui s'appelait Dominique de Prusse, dans la première moitié du 15e siècle, a été le premier à introduire dans la récitation du rosaire des méditations sur les mystères de notre Seigneur. Et au nombre de 50, ces méditations étaient rattachées au dernier mot de la salutation qui alors était Jésus, hein, comme je viens de vous dire. Ça pouvait donc pas servir que pour, ça pouvait servir rien que pour un tiers du rosaire à 50, je vous salue Marie, un chapelet. Alors, c'est donc l'initiateur d'une certaine méditation sur la vie de notre Seigneur puis de la Sainte Vierge, pendant la récitation du rosaire. Alors, comme il s'appelait Dominique, on peut s'imaginer qu'Alain de la Roche l'aurait un peu confondu avec le fondateur des Dominicains, Saint-Dominique. Alors, on peut remarquer que nous sommes encore loin de la récitation des 15 mystères en 3 séries, comme on fait aujourd'hui, là, sur l'incarnation, sur la passion puis la glorification de Jésus et de Marie, qui n'apparaît qu'à la fin du 15e siècle avec le Dominicain Jacques Springer, ou Springer, prieur de Cologne. On peut ajouter que le credo, les Gloria Patri, les autres éléments moins essentiels du rosaire apparaissent à une date encore plus récente, et ni Alain de la Roche ni ses disciples ne font mention expresse du credo, du « Je crois en Dieu » qui débute au début du chapelet. Et les plus anciens livres que l'on trouve, on trouve le Gloria Patri là, dans le rosaire, sont du 17e siècle. Alors vous voyez que c'est une dévotion complétée assez récemment, mais qui est une des plus grandes dévotions de l'Église, et nous verrons tout à l'heure la suite. Peut-être fait de la peine en vous disant que c'est pas Saint-Dominique qui aurait reçu le chapelet de la Vierge. Les historiens les plus sérieux, même dominicains, le reconnaissent aujourd'hui. C'est un peu triste au fond. Mais il faut bien faire face à l'histoire et savoir les choses telles qu'elles sont. Hein? Parce qu'en ce qui concerne l'origine du rosaire, on peut pas se fier aux écrits d'Alain de la Roche, là, qui est mort en 1475, comme je l'ai dit. C'est 200 ans après la période où a vécu Saint-Dominique, qui est mort, je vous le rappelle encore, en 1221. Les révélations, donc, dont parle Alain de la Roche, sont déclarées inadmissibles, dit un texte sérieux ici que j'ai devant les yeux, sont déclarées inadmissibles par les historiens dominicains eux-mêmes. D'autre part, aucun des biographes de Saint-Dominique, ceux qui ont écrit sa vie, hein, ou ceux qui ont écrit dans son temps. Donc, aucun des biographes anciens de Saint-Dominique ne fait allusion à la dévotion du rosaire, et les auteurs dominicains du XIIIe siècle, qui auraient dû nous renseigner sur cette pratique, n'en disent absolument rien. Pensez à Étienne de Bourlon, qui est mort en 1261, Vincent de Beauvais en 1264, Hugues de Strasbourg en 1268, et puis Saint Thomas d'Aquin lui-même, qui est mort en 1274, puis ils n'en parlent pas. Hein. Et sur le rosaire, bien, d'autres auteurs sont sont absolument muets, comme Gérard de Franchet, dans un recueil des souvenirs de la vie dominicaine primitive, il pourra en parler. Il y a le maître général, on appelle ça le supérieur général des dominicains, on les appelle des maîtres généraux. Hein, le maître général, Humbert de Romance, eh bien, qui est attentif à montrer la dévotion traditionnelle de son ordre envers Marie. Pourtant, il ne parle pas de ça. On peut pas s'empêcher de reconnaître la force puis la valeur hein, de cet argument, qui est tiré là, du silence absolu des auteurs qui auraient dû en parler. Donc c'est en vain que l'on prétend que si personne n'en a parlé pendant 2 siècles, c'est que le rosaire était tombé en décadence après Saint-Dominique. C'est pas un argument sérieux. Je regrette de faire de la peine à des gens, mais je tiens, sur le plan simplement de l'histoire, il faut être sérieux dans l'Église, hein, puis de regarder les choses en face. Mais le développement de la dévotion du rosaire dans l'ordre dominicain a pris une grande importance. On doit aux dominicains beaucoup. Et avant Alain de la Roche, aucune tradition ne rattachait donc à Saint-Dominique l'institution du rosaire, comme vous venez de le voir. C'était Alain de la Roche qui a présenté sous la forme d'une révélation, prétendait-il, ce fait que la Sainte Vierge aurait chargé Saint-Dominique de l'institution du psautier de Notre-Dame ou du rosaire. Mais à la récitation de ces prières, je vous l'ai dit au début, est jointe la méditation. Et c'est très important, je crois qu'il faut insister là-dessus. Et d'ailleurs, Alain de la Roche l'a fait. C'était de faire évoluer le rosaire, tel qu'on le connaissait un peu alors, vers le psautier de la Sainte Vierge, puis a coordonné tous les éléments qui étaient plus ou moins mal ordonnés avant lui. Il a été un ardent organisateur du rosaire, Alain de la Roche. Et depuis, il a institué, lui, une confrérie du psautier de la Vierge, puis a été véritablement un initiateur dans ce sens-là, des confréries qui existent encore dans le monde, où on publie encore des revues du rosaire. Il y a déjà des gens qui vraiment écrivent des choses très intéressantes et très intelligentes sur cette dévotion qui est gravement méprisée par beaucoup de pseudo-intellectuels ou de gens qui se croient très avertis. Je connais des gens très cultivés dans l'Église, de grands théologiens. Je les ai vus le chapelet à la main. Et c'est très impressionnant. On reste très étonné. C'est comme de voir dans des églises à Paris ou dans d'autres grandes villes en Europe, de grands intellectuels, des savants, des astronomes les plus réputés, des mathématiciens, des philosophes remarquables, qui sont à la messe et qui prient et qui communient avec ferveur, même sur semaine. C'est toujours très impressionnant, ça aussi. Alors, on doit à Alain de la Roche les premiers règlements des confraternités qui se sont étendus dans le monde entier. La première a été fondée à Douai, dans le nord de la France, en 1470, par Alain de la Roche lui-même. Donc, la dévotion n'a pas tardé à se propager dans toute l'Église, en raison, comme je vous ai dit au tout début, des victoires qui étaient remportées sur les ennemis des chrétiens, malheureusement, ces musulmans turcs, qui voulaient répandre leur religion à laquelle ils croyaient si fermement. Au point même, on le sait en Turquie, que le petit restant des chrétiens orthodoxes qui sont là, avec le patriarche écuménique de tous les orthodoxes, sont en grave danger. Une bombe a été lancée ces jours-ci au Fanar, c'est-à-dire le Vatican, des orthodoxes qui sont réduits à une simple poignée, à Istanbul, c'est-à-dire à Constantinople. C'est pénible de voir la chrétienté de la Turquie, qui était si florissante autrefois, réduite à presque rien. Alors, en souvenir de la victoire de Lépante, où les Turcs ont été battus en 1571, je vous l'avais dit, Grégoire XIII a permis de célébrer la fête du Saint-Rosaire. Et quelques années plus tard, c'est là que je voulais vous dire, c'est Sixte Quint, qui est mort en 1590, qui a approuvé l'usage de réciter le rosaire, 1590. Clément VIII, quelques années plus tard, 15 ans plus tard, a inséré dans le martyrologe la mention de la fête. Et là, les choses sont établies. Mais il y a encore une progression des ajouts du « Gloire soit au Père ». Le pape Léon XIII, au siècle dernier, c'est lui qui a le plus contribué, on peut dire, au développement de la dévotion au rosaire. Et de 1883 à 1901, il a écrit une dizaine d'encycliques imaginées à ce sujet. Il voulait que dans le monde entier, ce genre de prière soit adoptée pendant le mois d'octobre, le mois du rosaire. Pourquoi le mois d'octobre? Parce que si le mois de mai, qui est consacré aussi à Marie, est le mois des semences, le mois qui rappelle que la semence en elle, par Dieu, lui a permis de devenir la mère de Dieu, au mois d'octobre, c'est le mois de la récolte. C'est le mois où l'on rapporte les fruits d'une sainte semence. Alors, le pape Léon XIII insiste sur la méditation des mystères, comme les papes l'ont fait depuis toujours, depuis ce temps-là. Il voit même dans le rosaire un moyen de travailler à l'union des diverses églises par l'intercession de Marie. en lui adressant ces vagues, répétitives, comme des mantras, mais plus que des mantras, c'est des cris d'amour, de tendresse à l'égard de Marie. Et les noms de cette prière, c'est le psautier de la Sainte Vierge au début, c'est le nom que l'on trouve dans une bulle de Saint Pie V, en 1569. Alors, comme je vous ai dit, c'était calqué sur le psautier, les 150 psaumes. Et puis, la couronne, on appelle ça souvent la couronne, corona, dans les vieux textes. C'est le nom liturgique du chapelet. Le rosaire qui est matériellement façonné en forme de couronne. C'est comme une couronne, ou un collier, si on veut. C'est façonné en forme de couronne par les chrétiens du Moyen-Âge. Hein. Je vous ai expliqué qu'ils aimaient ça, les porter à la Vierge. Le rosaire, aussi, ça vient des roses que l'on offrait comme un hommage. Et cette prière, au fond, c'est comme une rose. C'est présenté à Jésus par Marie tout un champ de roses. C'est rappelé à Jésus, le Fils, comme à sa mère, tout ce dont nous leur sommes redevables dans l'ordre du salut. Décorée du nom de rosaire, dit encore Léon XIII, cette prière a quelque chose du parfum suave des roses et de la grâce des guirlandes fleuries. Elle est bien faite pour honorer la Vierge, saluée comme la rose mystique du paradis, où elle règne en souveraine le front saint d'un diadème étoilé. C'est Léon XIII, c'est le style de l'époque. Hein? Et il y a le Notre Père, c'est cette prière même que Jésus nous a apprise. Et ce « Je vous salue Marie », la salutation de l'ange à Marie, on peut dire que c'est le meilleur sourire que depuis l'origine Dieu ait envoyé à la terre. Ben oui, c'est un sourire que Dieu fait à tous les êtres humains par la bouche de Gabriel quand il s'adresse à Marie. C'est l'abrégé de la doctrine chrétienne, au fond, ce « Je vous salue, Marie ». Et c'est l'appui de nos espoirs. Et le « Quant aux gloires soit au Père », bien, c'est l'épanouissement total. Pour les chrétiens, c'est le couronnement de toutes choses. Et par toutes ces formules que l'on récite, mais le rosaire, on peut dire que c'est une forme de culte digne de Dieu et très efficace. C'est une interminable répétition des mêmes formules, mais qui convient, sachons-le bien, qui convient éminemment à la prière. C'est Lacordaire qui disait que c'est un langage de l'amour qui n'a qu'un mot, et le redisant toujours, ne le répète jamais. Il ne faut pas réciter ça trop rapidement. Il faut le réciter avec beaucoup de respect. Mieux vaut dire une seule dizaine que cinq maldites. Il ne faut pas oublier qu'au jardin de Gethsémani, où Jésus a subi son agonie, il est revenu trois fois à l'endroit où il priait. Et de plus en plus triste, et chaque fois, il redit les mêmes paroles. Et la méditation des mystères est extrêmement importante. C'est Léon XIII qui disait que le rosaire amène à contempler et à vénérer successivement les principaux mystères de notre religion. En premier lieu, ceux par lesquels le Verbe se fait chair, et Marie, mère toujours vierge, accepte avec joie la maternité. Ensuite, ce sont les mystères douloureux, les amertumes, les tourments, les supplices de Jésus, souffrant. Puis, les mystères glorieux, c'est-à-dire son triomphe à Jésus sur la mort, son ascension dans le ciel, l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte et la splendeur rayonnante de Marie qui est élevée au-dessus des astres, dit Léon XIII. Bien oui, l'Assomption. C'est une dévotion excellente pour ceux qui veulent vraiment la pratiquer avec foi. Et rien de plus simple, ni de plus pieux que cette récitation du rosaire ou du chapelet. En évoquant les 15 mystères joyeux, douloureux et glorieux qui nous rappelle, je vous le dis, les faits principaux de la vie de notre Seigneur et de sa mère. Il nous importe assez peu, en réalité, que la dévotion du rosaire ait pris des siècles à se former, ou que ce soit Saint-Dominique ou un autre, peu importe. Peu nous importe que les musulmans, les bouddhistes ou les autres aient des chapelets. Nous, nous en avons un qui est magnifique. J'y reviendrai tout à l'heure après avoir entendu encore les moines de Solesmes qui chantent la gloire de Marie en grégorien. Dévotion du rosaire est tout à fait en conformité avec l'esprit puis la doctrine du christianisme, le plus authentique et le plus pur. Car cette méditation des mystères, des événements les plus importants de l'histoire du salut, comme on dit, de notre libération, est une méditation extrêmement importante. Il faut revenir à ces vérités qui animent notre foi. Il ne s'agit pas de se tourmenter aussi pour les distractions. C'est évident qu'on ne peut pas être attentif constamment. Ça nous assaille, c'est évident. Il s'agit simplement de savourer de notre mieux les formules du « je crois en Dieu » qui débute ou qui... au début du chapelet, puis du Notre Père, et des « Je vous salue Marie », et des « Gloire soit au Père » qui composent tout ça. Il faut se rappeler, sans effort d'esprit, le mystère, ou le fait, l'événement dont le souvenir nous est proposé au début de chaque dizaine. Et les formules, puis les mystères, ils nous dirigent doucement vers Dieu, et vers l'au-delà, au-delà des réalités concrètes là, qui nous entourent, des bruits, des préoccupations, pour nous faire plonger dans le monde de l'invisible. Ça nous met en état de prière. Et on peut dire que notre âme est comme bercée et portée par ces vagues à répétition du « Je vous salue Marie ». Et c'est comme... si on était détaché des choses de la terre, on apprend à purifier ce qui nous habite, puis espérons-le à nous sanctifier. Te demander de plus? Il ne faut pas avoir honte d'avoir un chapelet et d'en réciter chaque jour une ou plusieurs dizaines. Car Marie, la très sainte Vierge, est très sensible à ces salutations À ces invocations répétées, on peut être sûr de ça. Et dans cette dévotion à celle qui est la Vierge des Vierges, eh bien notre piété, notre vie chrétienne peuvent trouver, j'en suis sûr, ce qu'on pourrait appeler une espèce de suavité, puis un fini, qu'elle ne connaîtrait pas sans elle. La vie spirituelle, accompagnée de cette dévotion à Marie, devient plus douce, plus suave, plus tendre. Mais elle ne saurait oublier l'essentiel, qui est l'adoration de la Trinité. Le Père, notre Père, qui est le Père de la Sainte Vierge. Dieu le Fils, éternel de Dieu, qui est devenu, par son corps, lors de l'incarnation, le Fils de Marie. C'est pour ça qu'on l'appelle la Mère de Dieu, mais entendons-nous bien sur le sens que prend le mot Mère de Dieu. Et l'Esprit Saint, je vous ai mentionné tout à l'heure, les épousailles de Dieu avec Marie. Gautier de Coincy, qui est mort en 1236, nous raconte une histoire d'une dévote qui disait 150 Ave, mais c'était la moitié du « Je vous salue Marie » d'aujourd'hui, là. Mais si vite que Notre-Dame lui est apparue et l'a réprimandée. Et après ce temps-là, cette dévote a dit à Gautier Coincy qu'elle n'en a plus dit que 50 et bien attentivement. C'est vendredi dernier, j'écoutais à Radio-Canada, j'ai fait une imprudence, j'ai quitté Radio et Marie, mais c'est que je voulais écouter quelque chose à Radio-Canada qui m'intéressait particulièrement. Et j'ai entendu « Je vous salue Marie » récité par le cardinal Léger, comme il le récitait, quand il récitait le chapelet pour la province entière. J'étais terrifié, je l'avoue. Moi qui ai beaucoup de respect pour le cardinal Léger, je vous ai fait d'ailleurs une émission d'une heure sur le cardinal Léger à l'occasion de l'anniversaire de son décès en novembre de l'an dernier. J'ai bien connu le cardinal Léger, je l'aimais beaucoup. J'ai travaillé avec lui au Cameroun, en ce sens que j'ai fait des films sur lui, en particulier un film qui s'appelle « Un cardinal missionnaire ». Donc, je l'aimais beaucoup et nous nous entendions fort bien. Mais quand je l'ai entendu à la radio, j'étais terrifié. Il récitait ça recto tono. Je n'oserais guère vous l'imiter, mais c'était presque « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Et c'était tellement rapide que je me disais « Comment peut-on parler à Marie sur ce ton ?» Oh, je n'accuse pas le cardinal Léger. Je ne veux pas accuser qui que ce soit. Je veux simplement qu'ensemble, nous réfléchissions et que jamais nous ne parlerions à qui que ce soit sur ce ton. Auriez-vous idée de téléphoner à quelqu'un et de lui dire « Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, etc. » On ne parle pas aux gens comme ça. Comment peut-on parler à Marie sur un ton pareil? Je crois qu'il faut avoir beaucoup de douceur, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour aussi. Il ne s'agit pas d'en faire un drame, il ne s'agit pas d'être dramatique, mais je crois que nous devons lui adresser ça avec tendresse. On a dit que la religion catholique a tenu bon grâce au rosaire récité par ceux qui avaient survécu aux martyrs japonais et qui l'avaient transmis à leur fils pendant 200 ans. Jusque vers 1865, quand les Japonais ont été retrouvés, catholiques toujours et fidèles à leur foi, ayant récité le rosaire, eux qui n'avaient pas de prêtre de génération en génération. C'est extraordinaire quand on y pense. Et pensons au beau texte de Piggy, dans le mystère des saints innocents, où il parle des paters et des aves, qui sont comme des vaisseaux qui voguent vers Dieu le Père, invincible. un enfant qui s'endort, en mêlant le Notre Père et le Je vous salue Marie. C'est Peggy qui raconte ça. Qu'est-ce que c'est que le rosaire finalement? C'est une prière de détente et une prière d'entretien qui est salutaire à toute âme, pourvu que ça ne devienne pas mécanique. Il faut faire très, très, très attention pour réciter ça avec amour. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'imagine qu'à la radio, mieux vaudrait ne réciter que 3 dizaines en un quart d'heure, que 5 trop rapidement. Qui t'a demandé aux fidèles de réciter les 2 autres dizaines chez eux, entre eux? N'oublions pas de méditer le chapelet, de méditer les mystères. C'est très important.